Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le mardi 19 avril 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Peut-être que vous avez noté cette petite phrase comme moi. Il y a une dizaine de jours, j'espionnais la réunion du service politique de l'Express, ni vu ni connu, avec mon micro. Et Camille Vigone-Lecoat, notre spécialiste de l'extrême droite, a dit ceci.
Eux, ils en sont convaincus, ils disent on a mis 10 ans à se dédiaboliser, on va pas pouvoir nous rediaboliser en 15 jours.
Eux, ce sont les cadres du Rassemblement National. La dédiabolisation, c'est le processus dans lequel le parti est engagé depuis que Jean-Marie Le Pen a quitté sa présidence en 2011. Et les 15 jours, ce sont ceux de l'entre-deux-tours. Au moment où Camille a prononcé cette phrase, Marine Le Pen n'était pas encore officiellement qualifiée pour le duel final de la présidentielle, mais c'est désormais chose faite, le match s'annonce plus serré que jamais. Alors, la candidate d'extrême droite est-elle bel et bien dédiabolisée? C'est la question que l'on passe à la loupe aujourd'hui. Cette fois, pas d'espionnage, je l'ai invitée en bonne et due forme dans le studio. Salut Camille.
Salut.
Camille Vigone-Lecoat, journaliste au service politique de l'Express. Tu suis donc Marine Le Pen et sa dédiabolisation, je mets entre guillemets, depuis des années. Et pour commencer ce podcast, tu voulais nous raconter une scène que tu as vécue juste avant le premier tour.
Oui, c'était le vendredi avant le vote du premier tour à Narbonne. On terminait 2 jours de reportage avec Marine Le Pen après son dernier meeting du premier tour à Perpignan. Elle est allée faire un marché, une visite de halle jusqu'à là assez classique. On pense que c'est terminé, on va déjeuner entre collègues. Et en fait, pendant le déjeuner, on entend des cris. On n'était pas très loin du restaurant dans lequel Marine Le Pen s'était elle-même arrêtée pour déjeuner. Et on commence à entendre un attroupement des cris. Notre premier réflexe, c'est de se dire, il y a une manif, il y a des antifas. On se demande un peu. Donc, certains confrères vont voir ce qui se passe. Et en fait, il y avait entre une grosse centaine de jeunes. Des collégiens, des lycéens du centre-ville de Narbonne qui s'étaient passé le mot en ayant repéré que Marine Le Pen était chez eux et qui étaient attroupés devant le restaurant. Sauf que c'était pas du tout pour crier des slogans contre Marine Le Pen, c'était pour lui demander un selfie, un autographe sur une casquette, une photo. On a tous un peu halluciné parce que c'est la première fois moi que je voyais autant de jeunes et résolument amicaux. Envers Marine Le Pen.
Mais ces cris qu'on entend sur la vidéo de cette scène filmée par le RN, tu les as perçus comme une forme de soutien ?
C'était pas. Je pense que ça aurait pu être Emmanuel Macron, ils auraient réagi de la même façon. Ça aurait été une star de TikTok, ils auraient certainement réagi pareil. Ce qui est frappant, c'était pas des cris de soutien du tout, hein. Mais ce qui est marquant, c'est que c'était plus la jeunesse en mer de le Front National. Et c'est, je l'ai écrit dans le papier que j'ai signé pour l'Express. C'est la France de Damien XVI et de Diams, qui était ma génération, appartient aux boomers, quoi. On s'est sentis tous complètement pas largués, mais en tout cas, on a vraiment marqué la fracture générationnelle et on s'est dit que ça, la dédiabolisation de Marine Le Pen, chez les jeunes, elle était actée.
Donc Marine Le Pen ne fait plus peur aux jeunes. C'est sûr que quand on repense à ces manifestations de l'entre-deux-tours en 2002, on mesure le chemin parcouru. Et ce que je te propose, Camille, c'est de refaire ce chemin. Alors, j'ouvre l'armoire à archives. Elle commence à être bien remplie parce qu'on approche du premier anniversaire de la loupe, mais ça, c'est un autre sujet. Je me souviens que juste après la déroute du RN au Régional, en juin 2021, le chef du service politique de l'Express, Éric Mandonnet, nous disait ceci.
Elle sait bien que son image est un obstacle. Elle est convaincue, comme beaucoup de responsables politiques, que si les Français l'apercevaient telle qu'elle était vraiment, elle en sortirait grandie.
Être perçue comme elle est vraiment, ça veut dire quoi, Camille ?
Marine Le Pen, elle part d'un constat, selon elle, qui est de dire « Les Français me connaissent depuis toujours parce que je suis la fille de Jean-Marie Le Pen. Ils m'ont vue à la télévision, toute petite. Ils m'ont connue jeune dans les médias. Ils m'ont vue en photo, à Montretout, autour du menhir. Mais ils ne me connaissent pas vraiment comme je suis, c'est-à-dire une femme qui a traversé des épreuves, qui a eu 3 enfants en 1 an, qui a divorcé, qui les a élevés seuls, qui s'en est pris plein la figure parce qu'elle était la fille de Jean-Marie Le Pen. Bon, » c'est clairement de la com et du storytelling, mais c'est aussi une certitude assez ancrée chez Marine Le Pen que son image, qui est régulièrement mesurée chez les Français, souvent on la décrit comme clivante, une personnalité qui fait peur, qui pourrait être considérée par une partie des Français comme une menace pour la démocratie. Et c'est surtout ces items, pour parler comme les sondeurs, qu'elle a décidé de travailler. Donc ça fait 10 ans qu'elle y travaille, mais ça a été très très renforcé ces 3-4 dernières années. On peut dire que toute sa stratégie, c'est uniquement recentrer sur ce point, adoucir son image et rassurer de potentiels électeurs.
Et comment elle s'y est prise pour adoucir son image ?
Alors, il y a plusieurs aspects. Sur le point de vue purement ça a été... elle a beaucoup plus parlé d'elle. Elle a choisi des médias avec des formats d'interviews un peu différents. Elle a privilégié, par exemple, les interviews d'une heure ou de 45 minutes.
Vous serez seule à l'Élysée ?
Oui.
Ah oui, a priori.
En tout cas, je ne ferai pas de faux.
Vous
donc
dire quoi
voilà, je suis célibataire.
Vous voulez parler de
France ? Je pense qu'il y a un certain nombre de millions de Français qui le sont aussi. Et en 2022, en France, ce n'est pas non plus un inconvénient. Je pense qu'on est une société moderne.
Elle est allée à 2 reprises chez Karine Le Marchand sur M6 pour parler de sa famille, de ses chats, de son père. Du point de vue du graphisme, il y a même une charte couleur. Elle veut uniquement apparaître avec beaucoup de lumière autour d'elle, des manteaux et des vestes claires, des hauts blancs. Il y a un de ses conseillers qui lui avait dit, Marine Le Pen, quand tu mets du blanc, on dirait un ange. Et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup jusqu'au code couleur utilisé pour, autour de la candidate.
Mesdames et messieurs, chers amis!
Et cette stratégie de communication autour de sa personne, elle a trouvé son paroxysme à Reims lors de sa convention présidentielle. J'y étais pour l'Express. Elle s'est un moment arrêtée, elle a posé ses notes et à la fin de son grand discours qui lançait le dur de la campagne, elle leur a dit « je vais vous parler maintenant un petit peu de moi ». Dans la pénombre, debout, de face à, en surjouant une très grande proximité, elle s'est mise à parler effectivement de son père, de ce que ça voulait dire être une Le Pen, des épreuves qu'elle avait traversées. Son but, c'était vraiment de convaincre qu'elle avait changé, mûri. Elle a même cité Nelson Mandela à la tribune. C'est évidemment du storytelling, parce que tous les éléments qu'elle a livrés, entre guillemets, ce jour-là, étaient des éléments qu'elle avait déjà confiés. Mais sur le style, c'était nouveau, et c'est tout ce qui compte pour Marine Le Pen.
Une image soigneusement ripollinée pour s'éloigner de celle de son père et élargir sa cible. Ça, c'est pour la forme, Camille. Mais il est temps de parler du fond et du programme de Marine Le Pen, car le diable se cache souvent dans les détails.
Posons les vrais problèmes de fond dans cette affaire. Il faut maintenant mettre fin à la double nationalité. Il faut choisir. On est algérien ou on est français, on est marocain ou on est français, on est de toutes les nationalités ou français, mais on ne peut pas être les deux en même temps.
Alors, je ne suis pas allé jusqu'à sortir le téléporteur de la loupe pour nous faire voyager dans le temps, mais l'archive date bien de 2017, lors de la précédente campagne présidentielle. J'aurais voulu en diffuser une autre juste après pour vous montrer l'évolution. J'ai cherché et je me suis rendu compte que Marine Le Pen ne l'avait jamais dit dans un micro, mais tu nous confirmes, Camille, qu'elle a bel et bien renoncé à cette mesure.
Oui, elle l'assume, elle a décidé, c'était un marqueur très très fort à l'extrême droite, de ne plus interdire la double nationalité, c'est-à-dire concrètement, si elle est élue demain, il pourra encore y avoir des franco-algériens, des franco-américains ou autres, et elle est revenue là-dessus, mais c'est pas le seul renoncement ou rééquilibrage large du programme, ça dépend d'où on se place.
Et quels sont les autres ?
Le premier, c'était la question de l'euro. Juste après son échec de 2017, elle a annoncé renoncer à sortir de l'euro, renoncer de la sortie de l'Union européenne. Donc ça, c'est vraiment les choses les plus fortes, parce que tout son programme de 2017 reposait sur cette sortie de l'Union européenne.
La réalité, c'est que je ne suis pas une idéologue. Et comme je ne suis pas une idéologue, je prends mes décisions qui sont toujours celles qui vont dans l'intérêt de la France et des Français en fonction de la situation actuelle. Pourquoi nous avons changé d'avis sur l'euro ? Mais tout simplement parce que l'Union européenne a tout changé. En réalité, toutes les règles ont été modifiées.
Il y a toute une série d'autres mesures, y compris ces derniers mois. Par exemple, elle voulait sortir de Schengen, renoncer à la libre circulation des personnes à l'intérieur de l'espace de l'Union européenne. Là-dessus, elle a amendé son programme. Et pareil, sur la sortie de la Convention européenne des droits de l'homme, elle ne veut plus sortir de la CEDH, même si elle n'est pas d'accord avec toutes les propositions. Mais bon, c'est une autre histoire.
Toutes ces mesures auxquelles Marine Le Pen a renoncé, Camille, ça, c'est des marqueurs d'extrême droite.
Oui, il y a eu vraiment la volonté d'enlever les marqueurs les plus forts qui la liaient à un programme extrêmement radical, même si, dans le détail, son programme reste un programme d'extrême droite.
Et ça, Camille, le RN n'aime pas beaucoup quand on le dit.
Oui, ça énerve beaucoup les cadres du Rassemblement National et Marine Le Pen qu'on continue à la qualifier d'extrême droite. Eux, leur argument, c'est de dire on respecte la démocratie, on n'est ni fasciste ni nazi, donc on n'est pas d'extrême droite. Sauf que moi, je suis très attachée à la définition de l'historien Nicolas Lebourg qui rappelle régulièrement que l'extrême droite, c'est un terme qui a été inventé en 1820, qui ne correspond pas forcément au nazisme et au fascisme, et dont Marine Le Pen remplit, entre guillemets, les principaux critères. Il y a toujours deux critères à regarder. C'est premièrement l'aspect des relations internationales. Marine Le Pen, elle veut une refonte complète des relations internationales, des relations de la France avec l'étranger. Pour commencer, on l'a un peu évoqué, la question de l'Union européenne. Concrètement, elle dit plus qu'elle veut en sortir, mais elle veut rebâtir tous les traités, tout modifier, tout remettre à plat. C'est un peu une sortie de l'Union européenne sans le dire, vu que tout son programme, en l'état actuel du fonctionnement de l'Union européenne, ne fonctionnerait pas. Elle veut, par exemple, inverser la hiérarchie des normes. Aujourd'hui, il y a la primauté du droit européen sur le droit national, et elle veut sortir de ça et imposer la primauté du droit national. Ça peut paraître technique, mais en fait, c'est hyper important dans le fonctionnement. Et elle veut aussi changer tous les alliés. Demain, Marine Le Pen au pouvoir, les alliés privilégiés de la France, ça serait la Pologne, la Hongrie de Viktor Orban, évidemment la Russie de Vladimir Poutine, même si elle est beaucoup plus discrète sur cette question depuis le début de la guerre avec l'Ukraine.
Si la guerre cesse en Ukraine demain, Vladimir Poutine peut-il redevenir un allié de la France ?
Oui, bien entendu.
Elle est pour un changement de paradigme complet. Donc ça, c'est le premier aspect qui peut faire qu'on peut la qualifier d'extrême droite. Et le deuxième, c'est une conception organiciste de la nation. Bon, ça,
c'est pareil. Qu'est-ce que c'est, organiciste ?
Organiciste, c'est un mot qui peut faire un peu peur. Mais en fait, elle considère la nation comme un tout. En gros, c'est le nous contre le eux. C'est de ça que découle, par exemple, la préférence nationale, qui reste un marqueur très, très fort. Marine Le Pen, on l'oublie souvent parce qu'elle en parle peu dans cette campagne, où elle a plus parlé d'autres thèmes comme du pouvoir d'achat, mais elle est pour conditionner une grande partie des aides sociales à la nationalité française. Elle préfère le terme priorité nationale que préférence nationale, mais c'est bien de préférence nationale dont il s'agit.
Donc le succès de la dédiabolisation est d'autant plus frappant qu'il cache un programme toujours, tu viens de le dire, profondément d'extrême droite. Et vous allez l'entendre, l'objectif n'est pas forcément d'y faire adhérer un maximum d'électeurs.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Une abstention très forte, ça peut vouloir dire aussi qu'un certain nombre d'électeurs de gauche ou de gauche modérée ou d'autres électorats, voire peut-être de droite, n'ont pas choisi le Front républicain et ne seraient pas allés voter pour Emmanuel Macron.
Alors, j'ai pas eu besoin de beaucoup fouiller dans l'armoire pour trouver cette archive-là. Elle date d'il y a seulement quelques jours. La semaine dernière, Bernard Sananès, le président de l'Institut de sondage ELAB, partenaire de l'Express, est venu nous aider à nous projeter sur le second tour. Et il nous a expliqué qu'une faible mobilisation des électeurs pourrait bénéficier au RN.
Oui, tout à fait. Marine Le Pen, en toute la stratégie dont on vient de parler, que ce soit sur le programme ou sur l'image, ça sert autant à convaincre des potentiels électeurs de voter pour elle qu'à dissuader des électeurs plutôt de gauche, mais pas seulement, de faire ce qu'on appelle communément le vote barrage. Elle mise énormément sur l'abstention différentielle, c'est-à-dire quand un camp se mobilise plus que l'autre, ça pèse sur le résultat. C'est pour elle la condition sine qua non qu'une partie des électeurs qui, il y a 10 ans, auraient voté contre Marine Le Pen, là, dimanche du soir du deuxième tour, décident de rester chez eux sur leur canapé parce qu'au final, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, c'est kiff-kiff, elle fait plus peur, donc on s'abstient. Et c'est sur ça que repose une grande partie de sa stratégie.
Donc le but de Marine Le Pen, c'est qu'une majorité d'électeurs vote pour elle au second tour, quitte à ce que la participation soit faible.
Alors, pas exactement que la participation soit faible non plus, parce que elle a besoin que son électorat se mobilise, et son électorat, on le sait, est assez porté sur l'abstention parce qu'il est jeune et parce qu'il est plutôt peu éduqué. Donc, elle a besoin d'une participation forte chez ses électeurs, mais elle a besoin, enfin, concrètement, là, en l'état actuel des choses, elle a besoin que les 22% d'électeurs qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon soit votent pour elle, soit s'abstiennent. Mais elle veut éviter qu'une partie de ses électeurs aille se réfugier dans un vote barrage, cette fameuse stratégie du castor dont parle Jean-Luc Mélenchon en faveur d'Emmanuel Macron.
Et si ce pari de Marine Le Pen est réussi, elle peut passer.
Alors, il faut faire toujours super gaffe avec les pronostics et je m'y risquerai évidemment pas. Mais moi, j'aime bien cette phrase de Gilles Finkelstein, le directeur de la fondation, des études de la Fondation Jean Jaurès, qui dit que là où l'élection de Marine Le Pen était impossible il y a 5 ans, aujourd'hui, elle est improbable. Et ce changement, ce passage de impossible à improbable, c'est déjà une révolution. Ça veut bien dire que ce n'est plus impossible qu'elle passe. Et ça, ils en sont conscients. Ils sont conscients que d'un point de vue strictement arithmétique, si on regarde les chiffres du premier tour, ça va être compliqué pour Marine Le Pen de passer. Mais ce n'est pas impossible. Il y a une sorte de trou de souris. Et c'est dans cet espace qu'ils veulent y arriver.
Marine Le Pen espère donc se glisser dans un trou de souris. Mais si ça ne fonctionne pas et qu'Emmanuel Macron reste à l'Élysée, que se passe-t-il pour elle ? Est-ce que la stratégie de dédiabolisation n'aura servi à rien ?
On peut dire qu'il y a deux constats. Le premier, c'est qu'elle aura quand même gagné la bataille de la dédiabolisation. Il va être très compliqué de la rediaboliser. Mmh. En revanche, son avenir à elle sera quand même particulièrement incertain. On ne manquera pas de lui reprocher cet échec. Ça, c'est sa troisième fois comme candidate à l'élection présidentielle. Elle a plusieurs fois dit « je reste à une autre place, c'est sans doute ma dernière campagne ». Là, c'est pareil, hein. Il est improbable que Marine Le Pen soit à nouveau candidate, mais ce n'est pas impossible, on n'est jamais mort en politique. Et Marine Le Pen a maintes fois prouvé qu'on l'avait beaucoup enterrée, très souvent enterrée trop tôt, et qu'elle avait la possibilité de renaître de ses cendres et de revenir au premier plan de la scène politique française. Donc, je ne l'enterrerai pas trop vite.
Improbable, mais pas impossible, on va donc vraiment retenir cette expression. En attendant, je te laisse retourner au suivi des derniers jours de campagne. Merci beaucoup, Camille.
Merci.
Camille Vigone-Lecoat, vous pouvez lire tous ses articles ainsi que tous ceux du service politique sur l'express.fr. Et c'est une très bonne raison de vous y abonner, croyez-moi. En plus, le premier mois est offert en ce moment. Pour continuer d'écouter nos décryptages sur cette élection, pensez aussi à suivre La Loupe sur votre plateforme de podcast préférée, Spotify, Podcast Addict ou Castbox par exemple. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires, nous mettre des étoiles ou nous écrire à laloupe@l'express.fr. Cet épisode a été fabriqué avec Charlotte Baris, Jules Cros et Margot Lanuzel. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.